prendre vos Bibles dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous avons déjà passé pas mal de temps dans ce livre. Et Romains chapitre 8, c'est vraiment le sommet, c'est le summum de ce livre. Parce que jusque-là, il nous explique notre salut et comment nous sommes arrivés là. Et puis après, à partir du chapitre 10, il nous parle de la vie pratique de tous les jours. Donc, nous allons lire donc Romains chapitre 8, et les versets 28 jusqu'à 39. Et ça a été écrit, c'est pour nous rassurer. L'évangile de Dieu, comme il dit au chapitre 1, verset 1, il nous dit l'évangile de Dieu, c'est un message d'amour. Message d'amour et qui nous dit que bien que nous soyons des pécheurs, et puis même des pécheurs inexcusables, parce que il nous dit parce que nous avons connu Dieu et nous ne l'avons pas adoré et nous ne l'avons pas rendu grâce, parlant de l'humanité. Mais ce même Dieu qui est ignoré par le monde qui nous entoure, c'est le Dieu qui propose de justifier chacun par le simple fait de placer confiance dans l'œuvre de Christ sur la croix. Et là, vous croyez que ce que j'ai fait, c'est pour votre salut, eh bien, vous serez justifié parce que vous êtes non seulement pardonné, mais déclaré juste devant Dieu. Et bien sûr, le message, il est important que chacun entende le message, et puis chacun d'entre nous l'avons entendu à un certain moment, et peut-être il est bon de nous souvenir quand on a entendu le message et comment nous l'avons reçu. Et voilà. Mais celui qui croit en cela, eh bien, il naît de l'Esprit de Dieu et il est adopté dans la famille de Dieu. Donc voilà, c'était le début du chapitre 8, il nous parlait justement de cette adoption. Et donc, verset 28, maintenant, pour ceux qui sont nés dans la famille de Dieu, ceux qui ont été adoptés par Dieu dans cette famille, eh bien, nous faisons partie du verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a que de la promesse. C'est nous qui bénéficions de tout. Et l'apôtre Paul nous donne une série, en fait, ici, c'est tout le long, c'est des raisons de croire que nous sommes, pour ce qui est de notre salut, eh bien, nous pouvons être rassurés. C'est une chose sûre. Celui qui a vraiment placé foi en Jésus-Christ, Parce qu'il nous dit, déjà au verset 28, il nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si nous faisons partie de ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont placé foi en lui, ceux qui l'aiment en retour par son amour, eh bien il dit, tout concourt au bien. Et le bien, c'est notre salut, c'est pas seulement le fait d'échapper à un jugement, mais c'est aussi ce qu'il a préparé pour nous. C'est ça qui est notre attention, hein, c'est comme quand vous conduisez, vous ne gardez pas les yeux sur le fossé, vous gardez les yeux sur la route et sur la destination. Et bien aussi, dans notre vie chrétienne, on n'est pas tout le temps en train de regarder pour voir quels sont les dangers possibles. Nous avons les yeux fixés sur notre destination, Jésus-Christ. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Il a déjà avec ça, ça devrait suffire, hein, avec rien que ça. Dire que, avec tout, vous faites le total, vous faites l'équation de tout ce qui arrive, peut arriver, vous faites tout ça, égal, et c'est positif. Hein. Peu importe combien il y a de moins dans l'équation, la fin, le résultat sera positif. C'est pour le bien. Ensuite, verset 29, il nous donne encore une autre raison. Il dit, même si vous ne comprenez pas le mécanisme, mais il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il dit encore une fois, il dit, peu importe si vous arrivez à comprendre comment c'est arrivé, mais ce qui est certain, c'est que si vous êtes enfant de Dieu, eh bien, il a prévu pour vous de devenir, d'être à l'image de son fils. Et il a dit de lui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors de pouvoir se retrouver dans ce statut-là, écoutez, qu'est-ce que vous voulez de mieux, hein, que Dieu puisse dire, mais je t'aime avec tout l'amour possible. Et qu'il soit le premier-né entre beaucoup de frères, parce que lui est un fils unique, hein, vous avez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et là maintenant, après la croix, il est en train de parler de frères. Il dit, la famille a grandi. Nous sommes inclus. Ça, il dit, vous êtes inclus. Ça, sachez-le, ne l'oubliez jamais. Et puis, troisièmement, verset 30, il nous dit, ceux qu'il a prédestinés, donc il vient de dire qu'ils sont prédestinés à l'image de son fils, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifiés, ça veut dire c'est justement ce qui va nous arriver lorsque nous quittons la terre pour être au ciel. Hein, nous avons des corps qui nous permettent de vivre sur terre, même pas sur la lune. Mais lui va nous donner un corps qui va pouvoir vivre dans le ciel. La gloire céleste. Et il y en a qui essayent d'aller jusqu'à Mars, mais nous on ira encore plus loin. Je ne sais pas où c'est, mais je sais que Dieu y est, si ça me suffit. Que pourrait-il dire de plus pour nous rassurer? Il dit en fait, c'est le programme, il est mis en place, on a pourvu à tout pour ce programme, il est ficelé et il ne peut pas être défait. C'est voilà ce que Dieu a préparé pour nous depuis la croix. Puis vous avez remarqué que là, tous ces trois versets, rien n'est au conditionnel, mais tout est un forme indicative. C'est une affirmation. Ce sont des affirmations. Il n'y a rien au conditionnel. Il n'y a rien à craindre. Il a dit, mais si vous, parce que si vous êtes fidèles, si vous tenez bon, si vous... Malheureusement, et c'est ça, les religions, ils sont tout le temps en train de dire, écoute, fais ton mieux. Et on s'adresse à n'importe qui, à n'importe quelle religion, on lui dit, écoute, est-ce que tu crois? Il dit, ben j'espère. Je ne sais pas encore. On verra. Mais ça, c'est pas une vie. Hein. Il dit, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses. Comment réagir? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Mais l'apôtre Paul va ajouter. Il a dit, non, mais je n'ai pas tout dit encore. Et il continue là en verset 31, je veux dire, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Déjà, il est en train de nous dire, Dieu est pour nous. S'il est pour nous, il dit, qui peut résister? Qui peut changer la chose? Et il déclare que puisque Dieu est pour nous, et il l'est vraiment, il l'a démontré sur la croix, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, pas devenus bons et gentils et tout ça, mais lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et il dit, si lui est pour nous, eh bien alors, personne ne pourra nous retirer ce qu'il a mis en place pour nous, ce qu'il a préparé. C'est un peu, dire autrement, si vous êtes dans le camp de David, vous ne craignez pas les Goliaths. C'est, si je suis du côté du plus fort, ben je ne crains pas les autres. Même si le Goliath peut faire peur, il peut être impressionnant, il peut tout ça, mais il dit, mais si tu es du côté, David était fort parce que sa foi était dans le Seigneur. Et Jésus dira dans Jean chapitre 10, versets 28 et 29, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle en parlant de ses brebis. Il dit, je suis le bon berger, c'est le chapitre où il dit, je suis le bon berger. Il dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main. Donc, il dit, il n'y a personne qui peut venir nous enlever, nous kidnapper de la famille de Dieu. Impossible. Il dit, voilà, tout est en place, vous n'avez rien à craindre. C'est un frère, je crois que c'est la semaine dernière, il m'appelait, son épouse qui est incroyante, puis ils étaient en train de voyager ensemble, et puis elle lui dit, écoute, tu parles toujours de ce pardon par la croix, par le sang de Christ sur la croix. Dis, explique-moi ça. Je ne comprends pas, parce qu'elle est musulmane, et dit, explique-moi ça, et il lui a expliqué. Il lui a dit, mais si c'est comme ça, si c'est juste croire, et puis on est pardonné, et tout est pardonné, il lui a dit, mais après on peut faire ce qu'on veut alors, si c'est sûr comme ça, après on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas une question de faire ce qu'on veut, mais celui qui a bien compris ce que Christ a fait, eh bien, il dit, moi, devant une telle œuvre, je vais vivre pour lui. Ce serait une ingratitude extraordinaire que de dire, ben, après je fais ce que je veux, je prends ce que je veux, puis après, hop, je ne te connais plus, mais j'ai la garantie. On peut faire ça avec notre agent d'assurance, si vous voulez, mais pas avec le Seigneur. Quand on comprend, quand on saisit ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a pourvu pour nous. Et puis après, il nous introduit dans une autre vie. Et qui a envie de retourner à ce qu'il avait avant? Jésus dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de ma main. Il faut être plus fort que lui pour les enlever. Et ça ne risque pas. Bon, on peut nous jeter des pierres, on peut nous attaquer. Et même Éphésiens chapitre 6 nous parle des flèches de l'ennemi. Mais il peut attaquer. Il peut nous dire des choses. On peut entendre des choses. On peut subir des choses. Mais on est toujours là. On ne peut pas lui être ravi, enlevé. Il ajoute, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il ajoute, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui. Il a dit, s'il a été jusqu'à ce point-là, où il a sacrifié son propre fils, qu'il aimait, hein, il l'a déclaré au baptême de Jésus, 3 ans et demi avant la croix, il a déclaré, il a dit, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et sachez-le. Et il l'a sacrifié. Il dit, s'il était prêt à faire cela pour nous, vous croyez qu'il va nous priver d'autre chose? Il a dit, ne vous donnera-t-il pas toute chose avec lui? On raconte qu'un riche Romain était très déçu de son fils unique. Et il a décidé de faire de son fidèle esclave Marcellus son héritier. Il appela son fils pour l'informer de la démarche. Mais parce qu'il était son fils, il lui propose, il dit, écoute, j'ai fait de Marcellus mon héritier, mais parce que tu es quand même mon fils, je te laisse choisir une chose qui m'appartient. Tu peux choisir n'importe quoi et je te donne une chose. Vous savez ce que le fils a dit? Il donne-moi ton esclave. Et en prenant Marcellus, tout le reste venait. Mais vous savez, c'est un peu l'image de ce que nous arrivons, nous, avec Dieu. Dieu a créé l'être humain. Et nous n'avons pas été à la hauteur des attentes, du potentiel. Et il avait prévu des belles choses pour nous. Délibérément, on a été dans un autre sens. T'es très déçu par nous. Et normalement, il n'aurait rien à nous proposer. Il a dit, finalement, tu m'as déçu, je vais prendre quelqu'un d'autre. Et là, si je choisis Jésus-Christ, en qui il a mis toute son affection, à qui il a tout donné, et bien tout d'un coup, je me retrouve avec tout ce qui a appartient au Fils. Et c'est un peu comme ça que nous avons rattrapé ce qui avait été perdu à cause de notre péché. Lui a gardé le Fils, nous avons choisi de prendre le Fils, Jésus-Christ. Et là, tout d'un coup, on a tout ce qui appartenait au Fils. Et on est, comme nous l'avons lu plus tôt dans le chapitre 8, nous sommes co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Et c'est l'œuvre extraordinaire. Hein, le message de l'Évangile, c'est extraordinaire. Ça ressemble à aucune religion. C'est pour ça que l'Évangile de Christ n'est pas une religion. C'est plus qu'une philosophie. C'est une autre réalité que nous acceptons et selon laquelle nous voulons vivre et qui est celle que Dieu a mis en place pour nous. Il dit Dieu qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Et il a été disposé à se sacrifier et maintenant, eh bien, il dit, maintenant je vous prends tous avec lui. Paul continue ici, il arrive au verset 33, il dit, au cas où vous craignez, parce que même en tant que chrétien, vous savez, vous n'êtes pas parfait, hein, et de temps en temps, on se dit, bon, avec ce que j'ai fait, j'ai quand même fait des bêtises, je suis quand même égaré, je me suis un peu, j'ai pas eu toujours un comportement digne du Seigneur, j'ai préféré ne pas dire à quelqu'un que j'étais chrétien parce que ça ne correspondait pas. Et il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Il dit, oui, c'est vrai que quelqu'un pourrait, hein, on pourrait déjà, bon, on essaie de le faire taire, mais déjà il y a celui qui est dans le miroir qui peut m'accuser, hein. Me condamner. Mais il y a aussi peut-être des membres de la famille qui sont au courant de certaines choses. Il y a des amis avec qui nous étions pour certaines choses. Il y a du monde Et puis il y a aussi Satan, hein, qui est appelé l'accusateur des saints. Hein, dans l'Apocalypse 12, il est appelé l'accusateur des fidèles, l'accusateur des frères. Et lui, il pourrait facilement, pour n'importe lequel d'entre nous, il pourrait présenter une liste de choses. Il dit, mais écoute, Dieu, regarde, t'as vu, et puis tu l'appelles encore ton fils, et tu veux lui faire, et t'as vu comment il se comporte, t'as vu ce qu'il a fait. On pourrait, hein, c'est vrai, il y a des choses qui pourraient nous être reprochées. Il y a certainement trop de choses. Mais, vous savez, il dit, on peut accuser, mais celui qui nous justifie, il est de notre côté, c'est Dieu. Et il dit en plus, qui peut nous condamner ? Eh bien, Jésus est là et il intercède près du Père. Il dit, oui, ce que tu dis est vrai, mais je suis mort pour lui. Et il est pardonné. Et le diable, qu'est-ce qu'il peut dire ? Il dit, si celui qui a été offensé pardonne, vous ne pouvez pas aller plus loin, hein, il ne peut rien faire. Et finalement, là, on a une belle image de cela. Dans Zacharie chapitre 3, peut-être que vous voulez y aller, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on lit régulièrement, peut-être que vous ne connaissez pas très bien le passage, Zacharie chapitre 3, donc c'est la fin de l'Ancien Testament, hein, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 3, et je vais lire les premiers 5 versets. C'est une vision, mais pour vraiment communiquer une réalité. Il dit, il me fit voir Josué. Donc ce n'est pas le Josué de Moïse, hein, c'est un Josué, un souverain sacrateur. Le souverain sacrateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. Donc vous faites une idée de la scène. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché au feu ? Et Josué était couvert de vêtements sales. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » Je dis, « Qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. En fait, Josué, le souverain sacrateur, donc le prêtre, donc le plus, celui de qui on attend le plus en Israël, il dit, Satan il se présente, il dit, vous savez, il y a des choses. Satan n'a même pas le temps de dire, de faire une accusation que déjà Dieu dit, moi, toi, tais-toi, moi je m'occupe de lui, et tout de suite l'ordre est donné d'enlever les vêtements sales, Dieu reconnaît, et il lui donne un vêtement propre, et en plus il lui donne une tiare sur sa tête qui est symbole du prêtre. Et Satan, ben, il n'a pas dit deux mots, il est parti, il ne peut rien faire. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains. Il dit, mais tu n'as rien à craindre, même si l'accusateur, il ne sait pas tout sur toi. Parce que Satan ne sait que ce qu'on dit et ce qu'on fait, mais il ne sait pas ce qu'on pense. Dieu en sait encore plus. Mais déjà avec ça, il est armé. Mais le Seigneur dit, Christi, mais j'ai couvert tout ça. Je suis mort pour lui. J'ai payé pour cela. Et il dit, je le justifie. Je lui donne le vêtement pur, je le justifie. Il est déclaré pur et tu n'as rien à dire. Et c'est vrai que c'est exactement comment les choses se passent. Et donc, moi je sais ce que je suis. Et le Seigneur, quand il nous sauve, il laisse avec nous un peu la mémoire. Même le souvenir de notre passé, et ça nous est utile, pas pour, c'est parce que ça nous empêche de nous enorgueillir. Hein. Paul parle de son passé. Il dit, oui, quand je pense à mon passé, j'ai honte. Parce que si on oublie notre passé, on oublie ce qu'on a été, on commence à être dur avec les autres. Hein, dès qu'on se sent parfait et meilleur, hein, vous savez, les gens qui se sentent meilleurs chrétiens que les autres, en général sont orgueilleux. C'est difficile de ne pas l'être. Quand on pense qu'on est meilleur, et on est convaincu qu'on est meilleur que les autres, c'est difficile de ne pas regarder les autres d'en haut. Mais si je me souviens, donc Dieu a laissé dans sa grâce, il a laissé avec moi la mémoire. La mémoire de notre passé, ce sera jusqu'au jour où on est enlevé vers la gloire. Quand on ira dans la gloire, on n'aura plus cette mémoire. Hein, ça fait partie de la délivrance aussi. Mais pour l'instant, on a encore la mémoire, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on était, on sait ce que Satan pourrait dire contre nous, ce que d'autres pourraient dire contre nous. Alors, il y a des gens qu'on n'a pas envie de rencontrer parce qu'ils savent des choses qu'on ne voudrait pas que les autres sachent. Mais il dit, mais quand tu arriveras devant Dieu, déclaré juste. L'apôtre Paul dit, tu sais, tu n'as rien à craindre. Même dans le pire des cas, tu n'as rien à craindre. Même si Satan prend la parole contre toi, tu n'as rien à craindre. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est celui qui nous aime et qui nous justifie. Et vous savez, c'est pas des choses que nous avons inventées. Parce qu'on le retrouve, ça, c'est pas quelque chose. Ces genres de pensées ne sont pas des pensées d'origine humaine, parce qu'on les retrouve dans aucune autre religion. Mais on les trouve uniquement dans l'évangile de Jésus-Christ. Parce que ce sont des pensées qui ne sont pas venues à la pensée de l'homme. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous est communiqué. Et finalement, on arrive à les versets 35 à 39, vous avez peut-être remarqué qu'il parle deux fois, il parle de séparation, et deux fois, une fois il nous parle de l'amour de Christ, le fait d'être séparé de l'amour de Christ, et puis après, ça c'est au verset 35, et au verset 39, il nous parle d'être séparé de l'amour de Dieu. Et il dit, tiens, encore une fois, je veux vous rassurer, le mot séparation n'existera plus. Entre nous. Il traite de cette impossibilité. Il dit que c'est une impossibilité que d'être séparé de l'amour de Christ ou d'être séparé de l'amour de Dieu. Qui, en fait, c'est le même amour. Hein. Donc, on le voit parce qu'il dit au verset 39, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est le même amour, c'est l'amour agapé, c'est le même mot qui se trouve dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. Donc, c'est toujours ce même amour qui continue, qui est là. Quand il le dit en 1 Jean, hein, c'est toujours Jean, c'est celui qui parle beaucoup de cet amour, et il dit Dieu est amour. Il le dit par deux fois. Dieu est amour. Il ne peut pas être autrement. Parce que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une pratique, c'est sa nature. Il est amour. Hein? C'est comme essayer, vous dites le soleil brille, mais le soleil ne peut pas faire autre chose que briller. C'est sa nature, c'est briller. Et donc, pareil, Dieu aime, et il ne peut pas faire autre chose que aimer. Et il n'y a rien, il n'y a aucun moment où il n'aime plus. Et donc, il dit, vous n'avez pas, et après il fait une liste de sept choses, hein, là au verset 35, des choses qui finalement font souffrir l'enfant de Dieu. Il parle de la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Hein, c'est à l'époque que les chrétiens subissaient cela, et encore aujourd'hui, hein, dans certains pays. En France, merci Seigneur, on n'a pas tout ça. Mais ce qu'il est en train de dire, ces choses peuvent causer la souffrance, même éventuellement la mort, mais elles ne peuvent pas te séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne s'arrête pas. Vous savez, déjà, parmi les humains, on peut avoir un être cher que nous aimons, qui meurt, mais ce n'est pas parce qu'il est mort qu'on ne l'aime plus. Alors, pourquoi est-ce que ce serait autrement avec Dieu? Hein? Si, C'est avec des humains qui sont imparfaits, qui sont un peu égoïstes, qui sont un peu usés, on arrive à le faire. Combien plus Dieu dit, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu subis, peu importe ce qu'on te fait subir, peu importe ce que tu amènes sur toi-même, il dit, tu ne peux pas te séparer de l'amour de Dieu. Il continue à aimer. Et dans le pire des cas, même si tu meurs, il t'aime toujours. Parfois on dit, on est marié jusqu'à la mort. Et la mort peut mettre la fin à beaucoup de choses. Que ce soit pour les bonnes choses, des plaisirs, comme pour les souffrances, comme pour le jugement. Quelqu'un commet le crime, mais il se suicide, la justice, elle ne sait plus quoi faire. Elle ne peut rien faire. Elle ne fait que constater, puis elle continue. Et ça, on en parle là dernièrement, pas mal. Mais Dieu dit, c'est pas terminé pour moi. Moi, ce que j'ai pour vous, même la mort ne met pas fin. Il dit, même parfois, là, au verset 36, il dit, oui, c'est vrai que c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Il dit, parce qu'à l'époque, les chrétiens étaient persécutés, on fait le choix de devenir chrétien, et c'est la souffrance, c'est le jugement, ça peut être la mort, comme encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays. Beaucoup de chrétiens meurent chaque jour parce qu'ils sont à Christ. Mais ça n'empêche pas que les gens viennent à Christ encore. Une fois, quelqu'un a parlé à un missionnaire, il a dit mais ça ne vous dérange pas quand ces gens, vous leur parlez de Christ et ils quittent pour suivre Christ. Et puis tout d'un coup, vous créez des problèmes, de la souffrance, et causez la séparation de la famille. Il dit, mais demandez à la personne elle-même si elle a des regrets. Et personnellement, j'ai parlé à tant de personnes. Il dit, non, mais oui, peut-être il y a la souffrance, mais je suis soulagé. Parce que je sais que mes péchés sont pardonnés. Et je sais où je vais. La destination finale, c'est ça qui importe. C'est pas ce qu'on nous fait subir sur terre, et ce qu'on mais c'est la destination finale. C'est nos yeux sont fixés sur cela. Vous savez, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, il dit trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont des choses que des puissances extérieures ne peuvent pas détruire. On peut me faire subir, on peut me couper en morceaux, mais la foi, elle reste. Combien sont ceux qui ont subi le martyr pour Christ jusqu'au bout? On ne pouvait pas l'ôter d'eux. L'espérance, je connais des personnes, ils ont dit, écoutez, à leurs persécuteurs, ils ont dit, tuez-moi, ça m'arrange. Parce qu'on met une pression sur l'être humain en menaçant de mort, et en général, on peut mettre beaucoup de pression. Et pour un enfant de Dieu, on lui dit, écoute, si tu renies pas, tu es mort. Il dit, ça m'arrange, parce que comme ça, je serai tout de suite avec le Seigneur. Et il dit, même de ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, mais dit, celle qui est sûre de demeurer, parce qu'une fois qu'on sera dans le ciel, une fois qu'on verra le Seigneur, on n'aura plus besoin de foi, on n'aura plus besoin d'espérance parce qu'on l'aura obtenu, mais l'amour demeure. L'amour continue. Il dit donc, écoute, ce qui a poussé Dieu à envoyer son Fils, ce qui t'a touché quand tu as entendu parler de l'amour de Dieu pour toi, cette manière que Dieu a de t'aimer pendant ta marche sur terre, il dit, ce sera toujours là. Ce sera toujours là. Rassure-toi. Et alors, il dit, c'est pas étonnant qu'il nous dit, au verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et le mot grec plus que vainqueur, c'est, ça veut dire que tu n'es pas seulement gagné, mais tu as vaincu avec une écrasante victoire. C'est-à-dire que tu as été bien au-delà. C'était un terme que, c'est pas juste on a gagné, hein, on a eu un point de plus que lui, donc on a gagné, mais c'était franc. Il dit, plus que vainqueur, il dit, en fait, en tant que, en Jésus-Christ, c'est pas que, en suivant le chemin qu'est Jésus, on arrive jusqu'à la porte du ciel. Non, on va jusqu'au trône du Dieu de gloire. Où nous pouvons l'adorer. C'est pas seulement que j'arrive là et je dis, bon, ça suffit, si j'arrive à la porte du ciel pour rentrer, ça me suffit. Même si je suis dans un petit coin. Non. Dis, tu pourras aller par Jésus-Christ. Nul ne vient au Père. Pas nul n'arrive à la porte du ciel. Nul n'arrive au Père que par moi. Ça va jusqu'au bout. Dis, nous sommes plus que vainqueurs. C'est assuré. Hein, c'est le pendant longtemps, il y avait dans le tabernacle qui était un symbole de la sainteté de Dieu et combien elle est protégée. Il y avait un premier voile que seulement les prêtres pouvaient franchir, et puis après il y avait un deuxième voile que seulement un prêtre pouvait franchir lorsqu'il portait le sang du sacrifice. Mais dans Hébreu, il nous parle du voile déchiré, et on peut entrer jusque dans le lieu très saint. C'est pas seulement qu'on arrive à la porte du tabernacle, mais on peut aller jusqu'au lieu très saint. Ça, c'est le message de l'évangile de Dieu. Et alors, au verset 38, l'apôtre dit, écoutez, je rends témoignage. Il dit, moi j'ai l'assurance, il dit, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai subi, tout ça, il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Toutes les puissances possibles, imaginables dans le monde, il dit, il n'y en a aucune qui peut nous empêcher, nous séparer de l'amour de Dieu. Il dit, vous parlez, soulevez n'importe quelle puissance. Elle est dans les airs, elle est en bas, elle est les puissances diaboliques, les puissances humaines, l'influence humaine, tout ça, il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il ne m'aimera toujours. Il se peut que moi je sois distrait, et que moi mon attention tourne sur quelque chose, mais Dieu, jamais. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Il dit, j'ai l'assurance. Ce mot assurance, dans la langue originale, eh bien, veut dire une confiance qui apaise, qui console, qui persuade. Quand il dit, j'ai l'assurance, il dit, moi, à force de me le dire, je le crois. Non. C'est une assurance, c'est une réalité qui me rassure, qui me console, je suis bien au-dedans de moi, sur ce sujet-là. Et j'ai l'assurance que aucune de ces puissances et aucune autre créature dans le ciel, sur la terre, visible et invisible, et tout, et dit, aucune créature, même pas moi-même, je ne peux même pas m'arracher de la main de Dieu. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, je ne veux pas que tu m'aimes. Pas plus que vous pouvez le dire à votre mère. Dites-vous, tu peux être fâché, tu me dis, ne me parle pas, ne me dis pas que tu m'aimes, je peux dire tout ce que vous faites, ce que vous voulez, mais vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'elle ressent. Et bien Dieu aussi. Et c'est pour ça qu'il peut aimer ce monde. Peu importe ce qu'il a fait, ce qu'il fait, le fait qu'il l'ignore, le fait qu'ils essayent de déclarer qu'il n'existe plus, toutes ces choses, si ça ne change rien à la réalité, il dit j'aime toujours. Dieu a tant aimé le monde. Et donc, déjà, s'il aime, qu'il aime les ennemis, ceux qui le, combien plus il aime ceux qui l'aiment en retour. Et donc, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il aime, j'aime en retour. Tout à l'heure, nous avons chanté le Seigneur Jésus m'aime et je l'aime. On s'aime l'un l'autre. Vous savez, on ne sait pas dire mieux hein, quand on s'aime l'un l'autre, même si on sait que son amour est plus fort, plus fidèle que le nôtre. Mais je l'aime. Et quand j'aime, eh bien, je veux plaire. Quand j'aime quelqu'un, je veux lui plaire. Et quand je n'aime plus, je ne cherche plus à plaire. Donc il faut entretenir cet amour pour ce que nous avons besoin d'entretenir cet amour. Lui, il ne peut pas faire autrement que de nous aimer. Il dit, écoutez, quand nous sommes en Jésus-Christ, nous le sommes pour de bon. Et l'accès, c'est par la foi. Donc, parce qu'il ne l'impose pas. Il dit, ben, celui qui ne veut pas, eh ben, il peut ne pas l'avoir. Mais si on le veut, si on veut cela, eh bien, il faut le demander. Il dit, moi, tout est préparé, les colis sont déjà faits. Et en fait même, quand il vous donne le colis, hein, vous dites, ah, je veux avoir la vie éternelle, je veux avoir tout cela. Il dit, ben, écoute, je te donne tout, je te donne le colis. Et on regarde le colis, on trouve notre nom déjà marqué dessus. C'est comme extraordinaire. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Connaissant tout cela, eh ben, ça doit changer notre manière de vivre, notre manière de percevoir la vie, notre manière de comprendre. Et puis quand on est tellement sûr de l'amour, même si, hein, c'est comme un enfant, même si papa et maman n'expliquent pas tout, mais s'il sait qu'il est aimé, et il sait que papa et maman cherchent leur bien, même parfois il y a des comportements de papa et maman, et je ne comprends pas pourquoi, mais il dit, mais je sais qu'il m'aime, j'y vais quand même. Et bien, combien plus avec Dieu, qui n'est pas faible, qui n'est pas défectueux dans son amour. Et donc, nous allons nous arrêter là. Et puis, on va se donner quelques moments pour vraiment, il y a peut-être quelque chose dans tout cela qu'ils ont dit, ça, merci Seigneur, et ils avaient envie de le dire au Seigneur, je dis, je te remercie pour ça, et je veux pas l'oublier, c'est pour moi. Et puis après quoi, je prierai.